David est revenu parmi nous. C'était bien? C'est peu dire. Bon, on aura un rapport bientôt, on va fixer une date. Oh, mince. Excusez-moi, je rallume. On peut lancer le PowerPoint si vous voulez. Vous allez bien? Oui? KNK, où ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la thématique d'aujourd'hui, le fils de l'homme. Est-ce que vous aimez la peinture? C'est qui a fait ce tableau? Pardon? Magritte. Pourquoi il nous montre ça? Quel est le rapport avec la Bible? Ben, il n'y en a pas. Non. On va voir. Voilà. Essayez de garder un peu l'image en tête. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Pardon? Donc toi, tu vois la pomme? Ah, Marie-Laure, elle voit un homme qui se cache. Ton banquier. Un homme masqué. Un quoi? Un politique. Bon, c'est un peu le propre d'une peinture, c'est que quand elle n'est pas trop expressive, on peut y voir plein de choses derrière. Et c'est rigolo comme quoi l'œil de chacun va être attiré plus vers telle chose ou vers telle chose. Et ça va faire qu'on va interpréter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous savez que c'est de loin cette expression, le fils de l'homme, l'expression la plus utilisée par Jésus lui-même pour parler de lui? Il va l'utiliser 31 fois, rien que dans l'évangile de Matthieu. Et plus de 70 fois, on retrouve cette expression au travers des évangiles. Et comme ce tableau, quand Jésus utilise cette expression, je trouve qu'elle instaure une part de mystère. En apparence, c'est un homme qui est derrière ce tableau, qui est derrière cette pomme. Mais qu'en est-il vraiment dans la Bible, quand Jésus utilise cette expression, le Fils de l'homme? Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, ça nous rappelle à plusieurs endroits comment Jésus se présente. Est-ce que... Ah. Par terre. Là. Non. On connaît ce passage de Jacob qui lutte avec quelqu'un. Ça lui coûte une hanche. Alors, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc Jacob lutte avec un homme et la conclusion, c'est qu'il a vu Dieu. Daniel 10, Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Et la Bible va remployer à plusieurs endroits cette expression de l'homme, du fils de l'homme. On peut la retrouver dans les Actes, quand Étienne est lapidé. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et on retrouve aussi dans le dernier livre de l'Apocalypse. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et voici au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, ses têtes, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Et puis il y a toute une description de comment est cet homme. Et on retrouve en Apocalypse 14 aussi. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors comme le tableau, au premier abord, qu'est-ce qu'elle nous, elle nous parle de quoi cette expression ? Elle semble nous présenter Jésus comme un être humain. C'est le fils d'un homme. Et dans un sens, on peut dire oui et amen. Jésus est bien un homme. Du moins, il a pris l'apparence d'un homme. Il a revêtu réellement, c'était pour de vrai, l'enveloppe humaine pour apparaître en tout point comme un être humain. Quand on lit le récit des évangiles, on voit que Jésus a eu faim, qu'il mangeait et buvait, il priait, il était triste, il a pleuré, il a obéi à ses parents et à toute la loi. Il a eu mal, son corps a été meurtri, son sang a coulé. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Pourquoi Dieu s'est fait homme ? On trouve une partie de la réponse dans Romains 5, et c'est lié au mystère qui entoure le salut. Au verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et au verset 14, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Par un homme, le premier Adam, qui était pur, le péché et la mort ont infecté l'humanité, et par un homme, Jésus-Christ, qui est appelé aussi le dernier Adam, le pardon et la vie ont été donnés. C'est parce que Jésus s'est fait chair que toute l'humanité peut s'identifier à sa vie, sa mort et sa résurrection. Si Jésus n'était pas venu en tant qu'homme, eh bien, probablement que le plan du salut, le salut, n'existerait pas. Mais parce que Jésus est venu et a incarné l'humanité et s'est fait homme, alors on peut s'identifier à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Et c'est grâce à cela que nous sommes sauvés. Et ça, le monde l'atteste. Est-ce que vous le savez, ça ? Est-ce qu'on peut rétorquer à ceux qui disent « Mais est-ce que Jésus a existé ?» Parce qu'on vit dans un monde de plus en plus loin de la culture biblique et certains commencent à même douter de l'historicité de Jésus en tant qu'homme. Est-ce qu'il a bel et bien été là? Et si on regarde un peu à l'histoire, je vous ai mis quelques citations, on voit que c'est indéniable. Bon, c'est quelques noms. Suétone, en l'an 69, il a vécu jusqu'à 125. C'est un archiviste de la cour de l'empereur Adrien. Il se consacra à des ouvrages historiques et il dit, comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christus, il les chassa de Rome. Il livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Donc c'était sous l'empereur Néron. Ce passage prouve qu'au temps de Néron, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Christ, il y avait des personnes qui se réclamaient de Christ. Donc là, c'est des sources, bien sûr, non chrétiennes, ce sont des historiens de l'époque. On a Cornelius Tacite, il est considéré comme le plus grand historien de la Rome impériale. Il décrit l'incendie de Rome en 64 et explique que les chrétiens sont devenus des boucs émissaires de Néron qui les accusent d'avoir provoqué le feu. Et il écrit: le nom d'un chrétien leur vient du nom, le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Donc, ceux qui veulent s'amuser à aller trouver les récits. Pline le Jeune, qui est un écrivain latin, il était gouverneur en Bithynie, donc c'est la Turquie, et il dit: ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été, s'ils invoquaient des dieux selon la formule que je leur dictais et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton image que j'avais fait apporter à cette intention, avec les statues des divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens. J'ai pensé qu'il fallait les relâcher. Ceux qui disaient qu'ils étaient chrétiens, affirmaient que toute leur faute ou leur erreur s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à Dieu. Voilà. Trajan, c'était un empereur de l'époque. Hop. Ah, je n'ai pas mis Lucien de Samosate. Il y en a un autre qui s'appelle Lucien de Samosate et qui dit: celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, le premier législateur des chrétiens les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Voilà, c'est juste pour dire que c'est un fait clairement historique, l'existence de Jésus en tant qu'homme, et ça fait partie des faits même les mieux documentés de l'époque de l'Antiquité. Bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les lettres du Nouveau Testament, et elles sont très nombreuses. La plus vieille, c'est le papyrus P52. Qu'on peut trouver à la bibliothèque Ryland, je ne sais pas comment on la prononce, et qui a un fragment de l'évangile de Jean qui date du 2e siècle, donc l'an 100 et quelques. Et les plus anciennes compilations qu'on connaît, enfin qu'on a sauvegardées, ce sont deux compilations de la Septante. Qui ont été compilés au 4e siècle, c'est-à-dire entre l'an 300 et l'an 400. Voilà, tout ça c'était pour brosser le tableau de l'humanité de Jésus, qui est incontestable. Ou alors, il faudrait aussi remettre en question que l'empereur Trajan a existé, je ne sais pas, que Néron a existé, que tous ces personnages de l'Antiquité, dont on n'a pas énormément d'écrits non plus, ont existé. Et comme la Bible est de bon conseil, je vais citer Deutéronome 1, 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Pourquoi je cite ça? C'est tout simplement parce que pour connaître pleinement Jésus ne saute pas aux yeux. Regarder sa silhouette, comme dans le tableau, ne suffit pas à le connaître vraiment. Qui est derrière cet homme dont l'histoire atteste? Qui est-il vraiment? Qui est ce fils de l'homme dont la Bible nous parle? Et là, on prend un texte dans Daniel 7, et c'est à ce texte-là précisément que Jésus fait référence quand il cite cette expression. Il est dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » En fait, en citant cette expression, le Fils de l'homme, Jésus proclamait publiquement, caché, mais publiquement, qu'il était le grand roi qui va régner sur toute la terre. Et personne n'avait compris. Il déclarait publiquement qu'il était Dieu, celui qui règne éternellement. Et personne n'y prenait garde. Qu'est-ce que faisait ce fils de l'homme dans les évangiles? C'est juste pour continuer dans ce sens que Jésus est bel et bien Dieu. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de les enfoncer et de les établir dans nos cœurs et de pouvoir s'appuyer fermement sur ces choses-là. Matthieu 9, 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit clairement qu'il est Dieu, puisqu'il s'appelle le Fils de l'homme. Et il le dit doublement parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand on connaît la culture hébraïque, clairement, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. C'est pour ça que l'on peut lire à plusieurs endroits un mouvement de colère et de haine, oui, presque, contre Jésus, parce qu'il blasphème quelque part. Cet homme, ce fils de charpentier, il ose dire ça? Il va dire aussi « car le fils de l'homme est le maître du sabbat ». Ça peut paraître anodin aujourd'hui, mais à l'époque, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Selon la loi juive, qui est le maître du sabbat? L'auteur du sabbat. Qui est l'auteur du sabbat? Celui qui a donné la loi à Moïse. Dieu lui-même. Et Jésus déclare qu'il est le maître de la loi. En Matthieu 13, on trouve « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Tout le monde sait que Dieu a des anges qui le servent et qu'il peut envoyer. Pourquoi je donne tout ça? C'est juste pour affermir une vérité, bien sûr, dont on est convaincu, mais c'est surtout pour pouvoir la défendre. D'accord? On est dans une société qui va remettre et qui remet de plus en plus en cause le christianisme et qui est Jésus. Et c'est bien que nous, on puisse poser et reposer ces fondements-là. De manière plus générale dans la Bible, oui, la Bible déclare clairement que Jésus est Dieu. Est-ce que vous êtes capable de citer des pleins passages comme ça, à froid? Marie-Laure, elle me dit Jean 1, c'est bien. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Déclaration directe. Pourquoi? Parce que au verset 14, on lit « La parole a été faite chair ». Forcément, il parlait de Jésus. « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc oui, ce passage est clairement une affirmation de la divinité de Jésus. Il est Dieu. Et on a une confirmation au verset 18, si vous voulez aller lire là-bas. Jean 20, Thomas qui dit « Jésus est ressuscité », il le voit, qu'est-ce qu'il répond ?« Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans Philippiens, Paul qui dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Et puis il a pris une forme humaine. Hébreux 1, et on devrait connaître ces versets par cœur. Hébreux 1, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Apocalypse, « Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Même ceux qui l'ont percé. Bon, clairement, il est parlé de Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On peut prendre aussi Jean 18. Jésus va se faire arrêter. Les gardes du Sanhédrin arrive et Jésus dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Eux, ils cherchent l'homme. Jésus leur dit « C'est moi ». Et en fait, quand on prend la traduction littérale, on peut facilement, enfin, on devrait le traduire par « Je suis ». De suite, ça nous rappelle des souvenirs, la manière dont Dieu s'est présenté à Moïse. Et pourquoi je préférerais, moi, la traduction de « je suis » C'est parce que, qu'est-ce qui se passe quand Jésus dit ça? C'est très curieux. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Juste parce qu'il a dit « je suis ». Parce que c'était le « je suis » de Yahvé à Moïse. Bien sûr, il y a plein d'autres passages que je nous encourage à creuser, à poser comme fondement. Jésus est Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que parfois on peut entendre certains questionnements ou certaines choses circuler, et notamment une question simple et que parfois on entend parmi les chrétiens, « Puis-je adorer Jésus ?» Ça peut paraître anodin, mais voilà, vous vous retrouvez face à un musulman. Puis-je adorer Jésus? Après tout, la loi de Moïse dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Mais en adorant Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, nous adorons bel et bien Dieu. Car le Fils, la Bible le déclare, il est pleinement Dieu. Pas à moitié. Pas un tiers, pleinement Dieu. Donc oui, je peux adorer Jésus. D'ailleurs, tout lui a été remis. La gloire, le règne. Si Jésus n'est pas Dieu, j'ai un problème. Qui règne dans l'Ancien Testament? C'est qui? c'est Dieu. Et dans le nouveau. Et oui, mais toute la domination et le règne lui ont été remis à Jésus. Donc Dieu arrête de régner dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ça pose des questions qui peuvent être bizarres. Non. Pourquoi ? Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il se la donne à lui-même. Donc, deuxième question, sommes-nous polythéistes ? C'est pas évident. Hein ? Sommes-nous polythéistes ? Réponse, Joël avait bien enseigné là-dessus. Bien sûr que non ! D'accord ? Il faut le dire au quart de tour, bien sûr que non ! Nous sommes monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Qu'est-ce qu'on peut citer là ? Voilà. Ce qu'on chante, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul, ou l'Éternel est un. Et en fait, dans la traduction, ça fait écoute Israël. Yahvé, d'accord, le nom de Dieu, Elohim, Echad. Yahvé, nom singulier, Elohim, nom pluriel de Dieu. Le Dieu, les dieux et un. Ce verset contient tout le mystère et la complexité de quoi ? Pas de qui est Dieu, mais de représenter Dieu. Vous voyez où est la différence ? Le problème n'est pas dans qui est Dieu, Dieu est Dieu. Le problème est dans comment est-ce que moi, en tant qu'homme, avec mon petit cerveau, je peux me représenter Dieu. D'accord ? Et comme dans Genèse, on conjugue au singulier, même si on a un pluriel, Elohim. Quand on prend le texte de la Genèse, c'est le mot Elohim. Dieu était au commencement et le verbe est conjugué au singulier. Il est donc un Dieu unique. Mais, ou est, qui se révèle en trois personnes. Essayez de les séparer serait, je pense, ne pas suivre l'enseignement de la Bible. Le Père est dans le Fils est dans le Père, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et si vous essayez de les séparer, vous allez forcément tomber dans une interprétation hors de la Bible, ou du moins incomplète. Et en même temps, nier que Dieu se révèle en trois êtres vivants, serait nier que le Fils s'est détaché du Père et qu'il a été engendré sous une forme humaine pour naître sur la terre. Puis le Fils est retourné auprès du Père afin que l'humanité bénéficie de la dispensation de l'Esprit-Saint sur toute chair. Une des plus belles images qu'on a dans la Bible de ce concept-là, cette représentation-là de Dieu, c'est le baptême de Jésus. Le Père parle au Fils et le Saint-Esprit descend sur le Fils. Ce sont donc deux vérités qu'il faut embrasser et il faut résister, à deux tentations. La tentation de séparer Dieu, non, parce que Echad, ça se dit comme ça, il est un. Donc Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. L'amoindrir, et on peut devenir témoin de Jéhovah. Parce que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Vous voyez comment théologiquement ça peut avoir de graves conséquences. Jésus est Dieu. On ne peut pas le séparer. Et la deuxième tentation à laquelle il faut résister, c'est la tentation de garder la révélation de Dieu au sein d'une représentation monopersonnelle. Parce qu'il se révèle bel et bien en trois. Yahvé Elohim est le Dieu unique qui se révèle en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, c'est pour cela que les théologiens se sont torturés dans tous les sens pour essayer de trouver des mots pour définir cela. Et donc, il y a un mot qui est sorti, c'est le mot qu'on connaît tous, Trinité, qui n'existe pas dans la Bible. Mais il a bien fallu essayer d'expliquer. Et encore une fois, on n'est pas là avec la Trinité dans la nature de Dieu, qui est Dieu. On est dans comment est-ce que moi, est-ce que je peux me représenter Dieu ? Eh bien, le mot Trinité a été utilisé pour dire il est trois en un. Le trois en un. Ou l'unité en trois. Bon, je pense qu'il est important d'être clair sur cette question parce que c'est précisément la pierre d'achoppement. C'est précisément le lieu de scandale face à beaucoup. Jésus, Christ et Dieu. Le monde en général, les athées, les musulmans, les témoins de Jéhovah, etc., remettent en question quoi ? La divinité du Christ. Jésus est-il Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi c'est le point crucial ? Parce que si Jésus est Dieu, alors ils ont tort et le christianisme a raison. Si Jésus-Christ est Dieu, alors ils ont tort et le christianisme a raison. Voilà ce que je crois, voilà ce que vous croyez, puisque vous êtes ici, que Jésus-Christ est Dieu. Alors je vous encourage cette semaine à relire peut-être un évangile, vous allez peut-être, pourquoi pas Matthieu, et vous allez retrouver plein de fois l'expression « le Fils de l'homme ». Relisez-le différemment, relisez-le avec cette affirmation publique de Jésus qui déclare « Je suis le roi, je suis le roi qui vient régner, je suis le roi qui a reçu la royauté éternelle. Je suis Dieu » et il le déclare avec cette expression, publiquement. Seulement, ne pouvaient le deviner au final que les Juifs à cette époque-là. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient avoir accès à cette révélation parce qu'elle était contenue dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous inviter à vous lever et on va prier. Seigneur, on veut redire ce matin que tu es Dieu et que nous sommes les hommes. C'est toi qui te révèles à nous. Et ce n'est pas nous qui te dépeignons. Tu n'es pas une de nos idoles, mais nous sommes ton ouvrage. Tu n'es pas une statue, une pensée, une philosophie que l'homme a inspirée, mais c'est toi qui a inspiré l'homme. Et c'est ce qu'on veut déclarer ce matin. Oui Seigneur, tu es le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, nous sommes d'accord avec nos amis juifs. Tu es un seul Dieu. Tu es Yahvé. Et tu es aussi Elohim, celui qui se révèle en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à mieux te comprendre. Tu vois que pour notre cerveau, c'est de la torture, Seigneur. On a envie d'aller à droite, on a envie d'aller à gauche. Mais aide-nous, Seigneur. Donne-nous une révélation encore plus forte de qui tu es, Seigneur. On confesse, Seigneur, qu'on ne te connaît pas pleinement, Seigneur. Mais que tu nous donnes, par ta parole, tout ce dont on a besoin de connaître de toi. Je bénis ton nom et je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.